Je vous dis bonjour maintenant, après avoir enlevé ma casquette ONG Humaniste du Monde et pris ma casquette de doctorante. Donc, je suis doctorante au laboratoire aménagement économie transport à Lyon, donc à l'École nationale des travaux publics de l'État. Et je suis également, donc ma recherche de thèse porte également en partie sur la Smart City, ou en tout cas un de ses aspects. Donc, que j'étudie donc à travers la mobilité quotidienne, les pratiques d'information et les pratiques d'information en partie numérique. Et donc, je vais essayer de montrer dans ma présentation des passages et des décalages entre discours institutionnels, projets urbains, les imaginaires des citadins et leurs pratiques au quotidien. Donc, je vais commencer. Donc, je vais vous présenter rapidement ce sur quoi, donc comment va s'enchaîner ma présentation. Donc, je vais rappeler rapidement quelques points qui ont été déjà évoqués hein, ce matin et tout à l'heure par Jérémy. Donc, le fait que voilà, la Smart City, c'est un objet de questionnement pour les études urbaines et pour les praticiens de l'urbanisme, de l'aménagement notamment, des sciences sociales. Que la mobilité urbaine en particulier est un objet privilégié des projets labellisés SMART. Et je m'appuierai en particulier donc, sur deux études de cas, donc, comme on disait, au nord et au sud. On pourra discuter un petit peu de cette approche-là. Donc ces deux études de cas sont Lyon en France, donc, dont Antoine Courmont a parlé ce matin pour ceux qui étaient présents, et Rabat au Maroc. Et donc j'expliquerai un peu dans la suite de la présentation les bases de ce rapprochement. Et donc voilà, donc ces deux études de cas, j'y ai étudié la mobilité quotidienne et les pratiques d'information. Et je vous montre dans ma présentation en quoi les projets de mobilité dits intelligents peuvent être mobilisés dans une stratégie de promotion métropolitaine. Donc, ensuite, je passerai plus précisément à une présentation de discours de résidents en fait de ces deux agglomérations, en essayant de montrer en quoi la Smart City peut faire l'objet de circulation à la fois de pratiques, peut faire l'objet d'un imaginaire citadin et d'appropriation relative de la part donc, de ces citadins. J'essaierai d'en montrer les limites et enfin de montrer que au-delà des projets institutionnels, il y a également une part de pratique, de ce que j'appelais pratique d'information ou de coordination low-tech, donc avec l'idée en creux que ces pratiques-là viennent aussi combler des manques ou des défaillances des pouvoirs publics. Donc voilà, je vais commencer par quelques rappels rapides. Donc tout d'abord, on l'a dit ce matin, mais le terme, il est d'abord le fait de géants du numérique, donc avec des sous-bassements technologiques, l'idée d'innovation et de débouchés économiques derrière ce terme de Smart City, avec une variété des définitions donc autour de la communication, de l'informatique, voilà, qui viennent un peu brouiller aussi l'acception de ce terme-là dans les politiques publiques et dans les projets qui sont qualifiés en fait de smart. On a vu durant les 10 dernières années une rapide diffusion à la fois du terme et d'un certain type de projet dans les politiques urbaines et petit à petit le terme a aussi pris avec une appropriation des chercheurs et des praticiens de l'urbain, une acception plus extensive, alors avec pas seulement derrière l'idée de numérisation de la ville pour aller très vite, mais une approche de l'innovation par le territoire, donc qu'elle soit purement numérique, sociale, économique, etc. Mais derrière ce terme, on a quand même très présent un discours normatif, avec l'idée de ce que devrait être une Smart City, d'où la circulation de critères, notamment à travers des classements internationaux qui vont labelliser telle ou telle ville comme Smart. Et donc derrière des critiques aussi vis-à-vis de, de ces classifications. Ce qu'on a aussi derrière ce terme, c'est le passage d'une ville de fonction à l'idée d'une ville de service. Et donc, derrière ce passage, on a des impacts forts sur la gouvernance des villes, donc avec un positionnement d'acteurs privés qui se modifie, qui devient tendanciellement plus important en fait sur les projets urbains, et un intérêt aussi croissant pour les utilisateurs finaux. Donc on l'a vu aussi ce matin à travers le poids que peut avoir l'usage ou non d'un service sur les dynamiques urbaines. Donc des critiques se sont élevées aussi vis-à-vis de ces développements, avec un renouvellement des enjeux sociaux et spatiaux posés par l'accès à ces nouveaux services. Donc l'idée de périmètre, l'espace a toujours son importance malgré le numérique. On a l'idée des infrastructures aussi, donc pour se connecter, pour accéder à aux différents services, donc d'un point de vue très très concret, des compétences cognitives qui vont être nécessaires, et donc on a un effet de génération aussi qui vient impacter l'utilisation des services, la circulation de l'information, donc avec des inégalités aussi qui se posent sur savoir qu'un nouveau service existe, l'obsolescence très très rapide en fait des applications, des services qui vont être développés. Et donc, une multiplicité, une complexification, finalement, des services urbains qui vont aussi faire partie d'une certaine définition de la Smart City. Et je pense que c'est intéressant en termes de transition aussi. C'est un rythme de transition qui s'accélère et qui peut qualifier cette Smart City. Donc la mobilité urbaine en particulier, c'est un objet privilégié parce que réseau, parce que forte visibilité des enjeux liés au déplacement. Donc on identifie des besoins croissants, notamment au sud, mais aussi au nord, avec l'idée du périurbain, de l'extension des périmètres urbains, de la métropolisation. Donc on a des périmètres urbains qui deviennent plus diffus, peut-être plus difficiles à relier. Et donc des externalités négatives qui sont souvent mises en avant, donc avec le transport responsable de 20% des émissions d'effet de serre au niveau mondial. Donc ça, c'est un chiffre qui est toujours mis en avant de manière assez schématique. Mais au-delà de ça, la congestion, la pollution, concurrence pour l'allocation du foncier, donc toutes ces externalités viennent justifier en fait le focus qui est très souvent fait au sein des agglomérations et des villes pour privilégier en fait des projets liés au transport et au déplacement. Donc certains auteurs montrent aussi que les transports sont un point d'entrée privilégié de politiques d'attractivité urbaine. Donc c'est un point fort qui est mis en avant pour attirer des populations, et aussi, donc comme le montre Rémi Hernandez, pour faire un tri social, un tri spatial dans les villes. Donc avec des effets ambigus sur les configurations socio-spatiales, on peut penser à des luttes urbaines autour des grands projets, donc d'infrastructures de transport, avec également des critiques vis-à-vis des politiques de management de la mobilité. Donc on a parlé des nudges ce matin. Donc voilà, l'idée contestable d'utiliser de l'économie comportementale pour influer sur les comportements des citadins et pour faire changer leur comportement de mobilité à leur insu, ou alors en les contraignant. Donc on peut penser à tous les débats autour des péages urbains. La mobilité urbaine, c'est aussi un champ d'application très concret de politiques de numérisation. C'est facilité en quelque sorte parce qu'on a des données très, très, très évidentes en fait, qui préexistent à la numérisation, mais qui ont été parmi les premières à être ouvertes. à faire l'objet de mises en réseau d'acteurs, donc autour de la multimodalité, du fait de mettre à disposition de l'information, donc à la fois planifiée et en temps réel, et sur les perturbations, voilà, autour des services de transport. Donc on a plusieurs types de services qui font l'objet de numérisation, donc à la fois de l'aide à la mobilité, notamment autour de l'information, de la géolocalisation, des nouvelles fonctionnalités, donc autour du paiement, par exemple, du paiement dématérialisé en général, donc soit via smartphone notamment, et aussi la numérisation permet l'essor pas seulement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nouveaux services, donc autour notamment des plateformes VTC, ou plus récemment du covoiturage dynamique, covoiturage longue distance, puis covoiturage dynamique urbain dans les grandes agglomérations. Donc, d'où l'intérêt en fait d'étudier la mobilité quotidienne et les pratiques d'information autour de ces enjeux-là de mobilité, donc dans ce que j'ai appelé deux villes ordinaires. Alors quand je dis ordinaires, ça ne veut pas dire que c'est des villes choisies au hasard. Non, elles ont un intérêt pour la problématique, mais c'est l'idée de souligner aussi l'intérêt d'une comparaison internationale pour étudier les perceptions et les pratiques relevant d'un discours globalisant, donc autour de la Smart City, et l'idée de comparer aussi deux villes qu'on ne classe pas dans les mêmes classifications académiques classiques, on va dire, où on distingue en général villes occidentales et non occidentales. Alors, si je les rapproche, c'est aussi qu'elles ont certaines similitudes, donc en termes de taille, hein, enfin en taille de population, donc avec à peu près 2 millions d'habitants dans les deux agglomérations, et un trait spécifique aussi en termes spatiaux, des politiques d'aménagement urbain qui restent largement monocentriques, malgré voilà, des dynamiques fortes aussi, qu'elles soient planifiées ou planifiées par les puissances publiques ou plus menées par des dynamiques privées d'étalement de l'habitat et de l'emploi. Et donc, qui posent des problématiques certaines en termes de déplacement. Elles ont aussi des dissemblances, hein, bien sûr. Donc ça, je vais pas forcément y revenir en tant que telle dans la suite. Donc c'est une différence de niveau de vie et de configuration socio-économique entre Lyon et Rabat qui est évidente, et des contextes culturels et linguistiques distincts, donc à la fois, bien sûr, avec des langues majoritaires qui sont différentes, mais aussi des manières, en fait, de combiner des langues et des pratiques linguistiques dans les deux agglomérations, donc au niveau des citadins, qui sont différentes aussi dans leur modalité. Et donc, à partir de ces deux cas d'étude, l'idée est de voir un petit peu quelles sont les perceptions et les pratiques citadines de la Smart City, donc à partir de données donc qui ont été collectées, alors pas directement sur cette problématique-là, mais que j'essaye de remobiliser en lien avec la Smart City à proprement parler. Donc des données qui sont issues d'une enquête de témoins qui a été menée en parallèle dans les deux agglomérations, donc à la fois quantitative et qualitative. Donc une enquête par questionnaire auprès de 1000 résidents par agglomération et une enquête par entretien avec des personnes ayant répondu au questionnaire. Donc en fait l'objectif de cette recherche était de comprendre un petit peu comment évoluaient les pratiques d'information et autour des pratiques de mobilité et comment elles pouvaient donner lieu à des inégalités socio-spatiales dans les deux cas. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi 9 zones d'enquête par agglomération pour tenir compte de la diversité socio-spatiale qui se joue en fait au cœur de chacune des agglomérations. Et donc voilà, donc les deux volets de l'enquête visaient d'une part à évaluer de manière quantitative donc les équipements, les usages du numérique, les caractéristiques de mobilité des populations dans chacune des agglomérations. Les sources, les besoins d'information, les situations qui pouvaient donner lieu à des incertitudes dans les pratiques de déplacement. Et d'autre part, l'enquête par entretien visait à comprendre en contexte quelles pouvaient être les incertitudes des citoyens dans leur mobilité quotidienne, la manière dont ils allaient mobiliser en fait, des ressources en termes d'information face à cela. Donc c'est plutôt ce deuxième volet là, que je vais mobiliser dans cette présentation, donc plutôt à partir des discours recueillis auprès des citadins des deux agglomérations. Donc ces deux agglomérations, comme je disais, ce qui les rapproche également, c'est d'avoir fait de la mobilité intelligente ou de projets présentés comme de la mobilité intelligente, des instruments d'une politique d'image et de stratégie institutionnelle. Donc d'une part, ce qu'on a du côté de Lyon, donc Antoine Courmand en a parlé ce matin, donc une politique d'ouverture des données à partir de 2011-2012 et notamment le lancement d'un projet voilà, d'open data, mais qui visait à être donc à mettre à disposition des données à des opérateurs privés principalement pour créer des nouveaux services. Et donc toute une série de nouveaux services en fait ont été élaborés à travers cette politique d'ouverture des données, donc à la fois un calculateur d'itinéraire multimodal dont a parlé Antoine, mais aussi des services à destination d'opérateurs logistiques et d'autres services numériques lancés à cette période-là. À Rabat, on a à partir de 2011 l'inauguration d'un tramway, donc qui a été présenté comme une innovation également en termes d'aménagement et un jalon très fort en fait en termes d'aménagement, puisque ce tramway a permis notamment de relier Rabat à la ville qui est très souvent qualifiée de ville dortoir de Salé, donc qui jouxte la ville centre. La ville-centre de Rabat, mais qui en est séparée par un fleuve et donc avec des problématiques très fortes d'enclavement et de déplacement pendulaire assez problématiques. Et donc, à ce titre-là, en fait, Rabat a été nominé par IBM dans le cadre de son Smarter Cities Challenge qui récompense donc chaque année des initiatives innovantes au niveau international. Donc c'est pour ça que voilà, je parlais de stratégie de promotion métropolitaine à travers des projets présentés comme intelligents. En parallèle de ces deux jalons, on a eu dans les deux villes l'introduction de nouveaux modes d'information digitale. Donc à Lyon, on a eu donc en 2014 le lancement d'un calculateur d'information multimodale intégré. Donc quand je dis intégré, c'est-à-dire que l'innovation majeure mise en avant, c'est la présentation dans un même calculateur de données transport en commun et de données véhicules particuliers. Donc, ce qui permettait, l'idée étant de permettre la comparaison et donc le report modèle. On a vu ce matin que ce n'était pas forcément très efficace de ce point de vue-là. Mais donc voilà, on a eu le lancement de cet outil OnlyMove, donc qui est la plateforme, et l'application mobile Optimode Lyon. À Rabat, on a également eu, donc avec le lancement du réseau de tramway, la disponibilité d'une information numérique en temps réel, ce qu'il n'y a pas en fait, sur d'autres modes de transport dans l'agglomération. Et donc dans le sillage en fait, des données tramway, le lancement d'une application mobile indépendante en 2012.